Culture et confiture. Une chronique bien tartinée par Manon Seren.
Vous reprendriez bien un peu de culture ? Alors c'est parti ! Mais avant tout, si vous êtes encore au petit-déj, faites griller les tartines, beurrez et ajoutez votre cuillère de confiture. Mais surtout, n'étalez pas trop votre culture. C'est parti pour un nouvel épisode de Culture et confiture. Le week-end approche, alors je vous propose de revenir sur les différents événements évoqués cette semaine. Lundi, nous nous sommes mis dans la peau des guerriers de la mer. Alors qui sont-ils ? Il s'agit des Vikings. C'est en effet la date du 8 juin 793 que l'on retient comme celle de la première invasion des Vikings de l'histoire. Et c'est ainsi que nous débutions la semaine plongée dans l'univers viking. Venus du nord, c'est sur l'île anglaise de Lindisfarne que ces fameux Vikings attaquent leur premier monastère. Quelques heures leur suffisent alors pour remplir leur bateau de tout ce qui brille. Mais au fait, d'où viennent les Vikings ? De Scandinavie, devenue aujourd'hui le Danemark et la Suède. Sur ces territoires se trouvent à l'époque de nombreux villages qui vivent grâce au système d'élevage et d'agriculture, guidés par de nombreux mythes. Et depuis leur village, les Vikings cultivent un goût de l'aventure, mais aussi de la richesse, qui les conduit donc à ces fameuses expéditions. Et pour ceux qui veulent une bonne note, vous vous souvenez d'où vient le mot viking ? Eh bien c'est assez simple, puisque c'est eux-mêmes qui se sont baptisés ainsi. Et si vous avez été attentif, vous connaissez déjà la signification de ce nom. Viking veut en effet dire « guerrier de la mer » en norrois, la langue de l'époque utilisée en Scandinavie. Si ce fameux 8 juin 793 à l'abbaye de Lindisfarne marque le début des invasions vikings, c'est après la mort de Charlemagne qu'ils se remettront en route afin de conquérir de nouveaux territoires occidentaux. Bon, et pendant que je vous parle de vikings, j'imagine que pour certains sportifs de la région, cela sonne autrement, non ? Puisque Viking, c'est aussi le nom du club de football américain de Villeneuve-d'Ascq fondé en 1986. Des sportifs au grand cœur, puisque ce club organise un soir par semaine, et ce depuis des années, des maraudes à travers la métropole lilloise pour aider les sans-abri. Et vous, vous êtes quel type de viking ?
Culture et confiture.
Mardi, nous avons parlé foot, vous vous souvenez ? Mais pourquoi donc ? Je vous aide, ça rime avec victoire. La Coupe du Monde de football, vous y êtes. And so pure. C'est en effet le 9 juin 1998 que s'ouvrait la 16e édition de la Coupe du Monde, avec en préparation, dans les vestiaires du Stade de France, le Brésil et l'Écosse. Et alors que la World Cup est l'événement sportif le plus suivi dans le monde, saviez-vous qu'elle était née dans la tête d'un Français ? Et oui, dans celle du dirigeant de football, Jules Rimet, à l'époque président de la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Décidée en 1928, la première Coupe du Monde de football est datée de 1930 et on confiera à l'Uruguay, à l'époque double champion olympique, l'organisation de l'événement. Depuis, le championnat a lieu tous les 4 ans en alternance avec les JO. Seules deux années, 1942 et 1946, pendant la Première Guerre mondiale, n'ont pas eu d'édition. Et ce 9 juin 1998, c'est alors la deuxième fois, après l'édition de 1938, que la France accueille la compétition sportive sur son territoire. C'est d'ailleurs à cette occasion que sera construit le célèbre Stade de France à Saint-Denis, qui s'apprête, ce jour-là, à accueillir pour le match d'ouverture plus de 80 000 spectateurs. L'édition 98 s'achèvera, vous le savez tous déjà, par un 3-0 des Français victorieux face aux Brésiliens. Aujourd'hui, côté palmarès, en 21 Coupes du Monde, 8 nations ont remporté au moins une fois la compétition et c'est le Brésil qui détient le record de victoires avec 5 étoiles au maillot, suivi de l'Italie et de l'Allemagne avec 4 victoires. Devant la France et l'Argentine avec 2 étoiles. Prochaine édition en 2022 au Qatar. Mais sachez qu'en 1938, ce n'était pas au Qatar, mais à Lille que certains matchs de la Coupe du Monde s'étaient joués. Alors que la France accueillait la compétition, le stade Victor Bouquet, devenu aujourd'hui stade Henri Jaurès à Lille, avait reçu, au sein de ses 20 000 places, le premier match de province de cette édition, avec sur sa pelouse les équipes de Hongrie et de Suisse.
Culture et confiture.
Mercredi 10 juin, nous sommes remontés en 1907, date à laquelle pour la première fois, plusieurs aventuriers férus de voitures prenaient le départ du raid Pékin-Paris. Alors je vous dis une nouvelle fois, en route, mauvaise troupe, direction Pékin. La course qui relie Pékin à Paris a été inventée par le Normand Eugène Lelouvier avant d'être lancée au début de l'année 1907 par le journal Le Matin. Elle naît à une époque où l'industrie automobile est encore à ses débuts. C'est en effet l'un des premiers grands raids automobiles avec une épreuve de plus de 16 000 km, une ampleur inédite.
Wow.
Pourtant, le départ de Pékin fut périlleux puisque sur les 40 inscrits à la course, seules 5 équipes parviendront à faire livrer leur véhicule à temps, le voyage étant alors sans garantie de réussite, avec surtout un coût très important. Déçus et désemparés, les organisateurs décident alors d'annuler la course, mais cela a été sans compter sur la passion des 5 participants qui se lancèrent malgré tout dans celle-ci, dans des conditions particulières puisqu'elle se fit sans assistance, sans carnet de route, ni même de carte routière. Et c'est après 44 jours de course que le prince et coureur italien Scipion Borghese remporte la course, premier arrivé à Paris. Il sera suivi 20 jours plus tard par les 3 équipes françaises. Depuis, plusieurs autres versions de la course ont été créées et le dernier départ du rallye Pékin-Paris est d'ailleurs daté de l'année dernière. Bon, et en attendant de rejoindre Pékin, si vous commenciez par les routes du Nord, au programme 181 km autour d'Armentières. Alors, si ça vous intéresse, soyez à l'affût des dates pour le prochain rallye des routes du Nord.
Culture et confiture.
Jeudi, nous avons voyagé dans le temps aux côtés de la créatrice de la mini-jupe Marie Quant, puisque c'est le 11 juin 1966 que celle-ci se faisait décorer de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth. Alors, direction le dressing, on va parler mode. C'est aux côtés de son futur mari que Marie Quant fait ses premiers pas dans la mode. C'est notamment avec lui qu'elle ouvrira son premier magasin de prêt-à-porter, baptisé Bazar, en 1955. Rapidement, se retrouvent dans cet endroit nombre d'artistes et de jeunes. Parmi eux, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, les Beatles ou encore les Rolling Stones. La petite boutique devient alors un lieu de rencontres musicales et artistiques, et plus tard, c'est le quartier tout entier, celui de King's Road, qui deviendra un lieu festif et branché, symbole du Londres Swinging 60s, dont la créatrice se fera rapidement symbole. Face au succès qu'elle rencontre, elle se lance alors dans l'aventure en solitaire et crée sa première ligne de vêtements, rapidement aidée tout de même par différents confectionneurs et fabricants. Alors qu'elle s'apprête à devenir l'une des modélistes les plus célèbres du Royaume-Uni, elle ouvre une seconde boutique à Londres et commence progressivement à collaborer avec de grandes chaînes américaines de grands magasins. Et c'est donc elle qui créa la mini-jupe. Bon, à vrai dire, ce statut de créatrice sera à nombreuses reprises contesté, mais une chose est sûre, elle prenait plaisir à travailler des jupes de plus en plus courtes pour les femmes, chose qu'elle voyait comme un vêtement pratique et libérateur. Son travail portait ainsi principalement sur la création de coupes androgynes adaptées aux femmes qui travaillent à l'époque de plus en plus. Et il y a donc 55 ans, la créatrice se faisait remettre l'ordre de l'Empire britannique, une décoration qu'elle a donc reçue de la reine pour ses services rendus à l'industrie de la mode britannique. Et peut-être que parmi vous, certains ont eu la chance de traverser la Manche l'année dernière pour aller découvrir l'une des expositions londoniennes sur la créatrice. Si c'est le cas, on attend vos anecdotes. Sinon, pour les autres que cela intéresse, n'hésitez pas à vous rendre dans les librairies de la région, dégoter l'une de ses biographies. L'occasion de soutenir nos commerces de proximité et puis bon, faire bronzette au soleil avec la biographie de Marie Quant en lecture, c'est plutôt sympa, non? Alors, gare au coup de soleil ce week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode inédit de Culture et Confiture.
Retrouvez Culture et Confiture en podcast sur notre site rpl.radio.